Chapitre 12. Cet après-midi, un plus grand nombre de badauds que d'ordinaire se pressaient devant le magasin Baudouin-Lampéric. Léon n'avait-il pas imaginé une réclame qu'il croyait infaillible parce qu'elle risquait le ridicule? En face du magasin, contre le trottoir, une voiture stationnait, longue et légère, en forme de haquet, portant sur le siège et le long de ses ridelles des grappes de raisin en carton, blondes, noires, veloutées de poussière. Sur le siège doré, en forme de barrique, il n'y avait pour le moment que l'oncle Alcide, qui, taciturne, tenait en main les rênes de deux mules d'Espagne, harnachées de pampres et de sarments en laine ou en cuir de couleur terreuse. Les passants s'arrêtaient avec stupéfaction, en riant d'abord, en admirant ensuite l'ingéniosité de la trouvaille et le pittoresque de son exécution. Les agents durent disperser un moment la foule trop dense. La risée des passants s'éleva, si exubérante que, dans leur boutique, Léon et Sébastien s'émurent. Ils s'engagèrent, non sans peine, sur le trottoir. Mathilde, en cheveux, les accompagnait par espièglerie. Son apparition apaisa les rumeurs du monde. « Descends !» ordonna Sébastien à son oncle. Celui-ci, aussi raide qu'une souche de vigne, répondit « Je ne descendrai jamais !»« Tu deviens idiot, on rit de nous !»« Si le peuple rit, c'est qu'il est vaincu !»« Le conducteur attend, il veut monter !»« Qu'il se case où il pourra !»« Descends !» Ni supplication, ni menace, n'ébranlait l'oncle Alcide. Mathilde intercédant en sa faveur. « Laissons-le, il a peut-être raison. » Sébastien, agacé, tourna sur elle son dépit. « Tu encourages ce pitre, Mathilde. Que se passe-t-il donc entre vous ? Que vas-tu me chanter ? Vous êtes tous toqués dans la famille. Merci, outrage-moi au milieu de la foule. » On ne prêtait plus attention, en effet, à l'oncle Alcide, mais aux deux épouses en querelle, à la flamande blonde dont la beauté rayonnait sur tous les visages, à l'homme trapu du Languedoc, si petit que, pour l'apercevoir, la plupart des badauds se haussaient sur la pointe des pieds. Léon souriait à l'écart, avec une satisfaction méchante. Pendant qu'il se gourmandait, Léon catéchisa si bien, avec tant de flatterie, l'oncle Alcide, que celui-ci finit par descendre de son siège. Le conducteur aussitôt y monta, un vigneron des Cévennes, fluet, noirot, qu'on avait revêtu du costume des travailleurs languedociens, veste et pantalon de toile rapiécés de partout, guêtres de drap. Et la voiture légère partit, avec des pétarades de fouet, des tintements joyeux de grelots. La foule, amusée, l'escorta bruyamment jusqu'à la rue Richelieu. Tandis que l'oncle, pour éviter des reproches, s'enfuyait sur le boulevard, les deux associés et Mathilde rentrèrent au magasin. Devant ses employés, Sébastien sut contenir son humeur. Mais d'un bloc pétulant, il pénétra le premier dans le cabinet directorial. Lorsque Mathilde, à la suite de Léon, y parut à son tour, il la saisit par les poignets et si fort, si brusque, qu'elle ne songea pas d'abord à se détacher. « Depuis quelque temps, cria-t-il, tu as des idées qui me déplaisent. Je vais te surveiller. »« Serais-tu jaloux ?»« Peut-être. »« Et de qui, Nigaud ? Est-ce que je ne te donne pas assez de preuves de mon amour ?»« Possible, mais je te surveillerai. » Comme, après l'avoir délivré, il multipliait ses clameurs de désespoir et de menaces, Léon intervint, très sage, sur un ton de maître. « Calmez-vous, les employés apprendraient vos histoires. »« C'est vrai, acquiesça Sébastien, il faut que je sois raisonnable, mais j'en ai par-dessus le dos des paillardises de mon oncle, des lamentations de ma mère, des carnavalades de ma femme. » Tandis qu'il frappait la table de tous les objets que sa main fiévreuse y rencontrait, Mathilde s'était assise sur le fauteuil avec résignation. Pour sa tranquillité, il valait mieux, après tout, qu'elle s'humiliât. La colère si imprévue de Sébastien l'alarmait un peu. Son maintien de modestie, de contrition, émut bientôt, selon qu'elle l'avait pressenti, son petit homme essoufflé déjà, qui dit à leurs camarades « Léon, tu devrais accompagner ma femme rue Chauchat. » « Volontiers, s'empressa Léon. » Mais Mathilde, en se levant, très calme, protestait. « Je ne m'en retournerai qu'avec mon mari. »« J'ai à travailler, Mathilde. »« Eh bien, je m'en retournerai seule. Autrement, on dirait que tu n'as plus confiance en moi, Sébastien. Si, j'ai confiance. Seulement, pour une jolie femme, les boulevards sont parsemés d'embûches. Rappelle-toi notre première... Oui, je me rappelle. Je n'ai besoin de personne. Sébastien s'était approché d'elle, sans la flatter d'une caresse, bien qu'il en eût envie, et Mathilde le sentait. Elle mit son chapeau avec soin devant la glace à gauche de la porte. Puis, ayant serré la main de Léon, qui se réjouissait d'une espérance infernale, elle s'avança vers Sébastien d'un pas doucereux, lui présenta son visage qu'elle savait irrésistible. Sans hésiter, il lui baisa les joues d'une... bouche tremblante. Elle sortit en agitant, comme par mégarde, sa robe qui exhalait tant de parfums. Sébastien referma docilement la porte, puis, avec un air de dignité, reprit son fauteuil à la table de travail en face de Léon. Ils examinèrent ensemble leurs livres jusqu'au soir. Sébastien, d'ailleurs, s'adonnait bravement, avec sa conscience jeune, à la destinée de leur commune entreprise. Pendant quelques jours, d'autant plus assidu à la tâche qu'il voyait Mathilde ne sortir de sa maison qu'en compagnie de Mère Adèle, il s'acharna à écrire des lettres, à surveiller ses courtiers à travers Paris, à rouler des barriques dans l'arrière-magasin. En récompense de son surmenage, il tomba malade. Mathilde demeura passionnément à le soigner. Il en fut ravi. La joie de son cœur, mieux que tous les remèdes, lui rendit, au bout de 8 jours, le goût de revivre. Dès qu'elle ne s'amusa plus à jouer son rôle de garde-malade, elle s'ennuya dans la pénombre de la chambre calfeutrée auprès de Mère Adèle qui ne levait le nez de son ravaudage que pour lui vanter les beaux soleils du Languedoc. Sébastien, étendu sur une chaise longue, lisait des romans. Elle cousait, en silence, cherchant à se plaire dans l'âme du foyer honnête. Hélas, son esprit s'échappait à la tendresse de sa famille, vagabondait au loin dans des paysages libres où l'on riait. Elle pensait à Pierre, à l'homme que Dieu avait fait robuste pour elle et qui était si simple, même pour les choses de l'amour. Mais comment se fut-elle évadée, rien qu'un après-midi, de sa maison maussade? Sébastien devenait jaloux comme un tigre. Par moments, dans l'intervalle de ses lectures, il lui prenait les mains à l'improviste, avec une frénésie d'avare. Il la fixait de ses yeux ronds qui faisaient peur. Une fois, elle regardait par distraction les passants dans la rue, lorsque soudain, elle aperçut sur le trottoir d'en face son Pierrot, qui, sans façon, épiait les fenêtres de l'appartement. Elle tressaillit d'effroi, le front contre la vitre. Pierre lui adressait obstinément des gestes d'appel. N'aurait-il pas l'audace de monter chez les Lampéric? Elle ferma les yeux et, portant la main à son cœur, elle voulut s'éloigner de la fenêtre. Sébastien avait déjà remarqué son trouble. Il l'interrogea. « Est-ce que tu vas te trouver mal ?»« Non, pourquoi ?» Il se soulevait péniblement sur sa chaise longue avec une sorte de hâte. Alors, hardie dans le danger, elle courut à lui. « Ne te tourmente pas, dit-elle, c'est toi qui as des hallucinations. Ton mal, peut-être. »« Sois sage, mon fils, soupira Mère Adèle. »« Oui, je serai sage. » Il se renversa sur le dossier de la chaise. Mathilde eut le courage de l'embrasser et, au contact des lèvres qui le ranimaient toujours, il sentit une vie heureuse circuler dans ses veines. « Mathilde, supplia-t-il très doux, raconte-moi tes chagrins. » « Eh bien, je m'ennuie un peu. »« Rien que ça ? Ce n'est pas assez ? » ?»« Si, tu as raison, tu es belle, tu as besoin d'espace et de soleil. » »« Ne te tourmente pas, lis. » Et lui ayant rendu ses caresses, elle revint au jour de la fenêtre, le cœur content de ne plus retrouver Pierre sur le trottoir en face. Le lendemain, à la même heure d'après-midi, Madame Baudoin se présenta seule pour prendre des nouvelles du convalescent. Dans le boudoir, à l'extrémité opposée de l'appartement, Mère Adèle était en train de morigéner l'oncle, qui ne rapportait de ses fréquentes promenades que des odeurs de débauche. Sébastien allait mieux aujourd'hui. Dans son espoir de revoir bientôt la rue, le magasin, il avait une humeur de plaisanter. Il taquina Berthe à propos de sa toilette sémillante, de son grand chapeau en bataille. Berthe, en effet, comme tant de provinciales jetées sans mégarde sur le sol de Paris, subissait l'influence de son atmosphère saturée de poésies perverses et délicieuses. Elle souhaitait de connaître les plaisirs défendus, les moins accessibles aux femmes de la province, par conséquent les meilleurs. Puisque les femmes bien portantes et cossues s'amusaient dans Paris, pourquoi ne chercherait-elle pas, aussi, un objet de caresse et de récréation? Peut-être, par un geste de révolte, ramènerait-elle dans leur chambre commune ce coureur de Léon en excitant sa jalousie ou son amour-propre? Elle avait enduit de fard et de poudre ses joues presque ridées, son front menu, le tour de ses yeux, ses lèvres épaisses. Dans une agitation croissante, sa toilette, son linge, exhalaient de violents parfums d'alcôve. Elle bavardait d'un entrain dégourdi, à peu près seule, avec des allusions au péché d'amour. « Alors, Sébastien, vous êtes encore fatigué ?»«
Oui, le surmenage. »«
Lequel ? Ah ah ! Voyons votre pouls !» Elle lui tâtait le poignet, se rapprochait sans discrétion. D'un coup d'effronterie, elle s'écria « J'ai, ma foi, changé de caractère. Je ne veux plus que bien vivre. »
« Si Léon vous entendait ?»«
Il le sait.
Par exemple.
Il ne fait pas d'économie, je ne veux plus en faire. N'ai-je pas raison, Mathilde ?»«
Moi, répondit celle-ci en riant, je n'en sais rien. »
Berthe, déjà, se retournait vers Sébastien et lui demandait « Vous serez bientôt sur pied ?»«
Demain. » »«
Tant mieux, vous êtes un mari fidèle, vous. » »«
C'est vrai. »
« Léon me trahit, moi, j'en suis sûr. Ma foi, tant pis, il a tort. »
Un moment de confusion, Sébastien la considéra, si proche de lui, soumise. Était-elle venue essayer sur l'époux de Mathilde la force de ses tentations? Elle se leva d'un saut en lui serrant très fort la main, puis elle embrassa Mathilde avec effusion, ainsi qu'une bonne camarade de sentiments et de pensées. À peine eut-elle franchi la porte de la chambre que les époux Lampéric battirent des mains, l'un devant l'autre, comme des enfants en possession de secrets redoutables.
« Notre vieille hôte est folle, » dit Sébastien. À l'idée du malheur qui menaçait son ami, il éprouva, dans le fond toujours obscur de sa conscience, une émotion de joie et d'orgueil. Mais il cessa de sourire. Tandis que la joie, à mesure qu'il réfléchissait, s'éloignait de son esprit, il répéta « Sont-ils drôles, nos associés ? Ce n'est pas elle, en effet, la pauvre femme, qui aura tous les torts.
Pourquoi, je te prie ?
Parce que son mari la délaisse et qu'il n'en a pas le droit.
C'est vrai, Mathilde, mais il y a beaucoup de femmes qui, sans excuse, uniquement par goût du vice, de l'inconnu et des plus heureuses même, semblent poussées par un démon à se chercher de l'inquiétude, à détruire le bonheur de leur foyer. » Il la frappait sur la paume des mains avec une tendresse ardente, la première depuis sa convalescence. Il la regardait gravement, attentif à surprendre dans ses yeux bleus, sur son clair visage, une ombre de tristesse ou de misère. Elle soutint son regard sans trouble, sans forfanterie. Elle se reposa sur sa chaise longue, contre ses genoux. « Écoute, lui dit-il, je m'imagine parfois que je ne te possède pas pour longtemps. »
« Crois-tu que je vais mourir ?»«
Non. »«
Que je te quitterai ?»«
Peut-être, ou que tu me tromperas en jouant ici la comédie de la fidélité. »«
Tu sais, si je ne te connaissais pas, je me fâcherais. »«
Vois-tu, Mathilde, je t'aime trop. »«
Non, mais non. »«
Si, il y a des jours où la folie me vient, pour que tu ne sois pas à d'autres, de te tuer, et moi après. »«
Tu rêves, mon Dieu ?»
Ne t'en va pas, il me semble que pour la dernière fois, je suis pleinement heureux.
Oh, si tu me trompais !»
Elle ne se défendait plus dans la défaillance de son âme. Elle s'allongea contre lui, mais en dérobant par une honte son visage. Il la pressa de nouveau, avec emportement, sur son cœur, avide de la sentir à lui, entière et dévouée, comme au premier jour de leur mariage. Un pas très lent, au milieu du silence, s'avança dans le vestibule vers leur chambre. Ils se séparèrent. Sébastien repoussait Mathilde d'un mouvement de pudeur étrange en la regardant avec passion. C'était Mère Adèle qui entrait, un tricot à la main. puis ce fut l'oncle Alcide. Celui-ci, parce que personne ne lui adressait la parole, s'en alla sur le boulevard se distraire. Mathilde, jusqu'au soir, resta docilement à coudre auprès de Mère Adèle. Dans la pénombre de la chambre, elle comprenait aujourd'hui les tristesses de Mère Adèle, si inconsolable d'être dépaysée. En observant la rue libre et tapageuse, elle songeait à Pierre, à leur terre noire de la mine, où ils avaient appris ensemble l'esprit des caresses et des baisers, à sa chambre de pauvre, où elle avait reçu de lui la révélation véritable de l'amour. Le lendemain, tandis que son mari se rendait à sa boutique, boulevard Poissonnière, elle partit pour Montmartre, plus brûlante encore, des émotions de son esprit et de sa chair. C'était chez elle un besoin impérieux, exaspéré, de jouir de la vie, d'obéir, même à travers de la souffrance, aux appels voluptueux de son âge. Là-haut, sur la butte, la maison de Pierre dormait, toutes ses chambres closes. Mathilde redescendit dans Paris, éperdue d'ennui. À propos de rien, rue Chauchat, elle fit une scène à la servante, et dans un tel désordre que Mère Adèle craignit pour sa santé. « D'où viens-tu, ma fille? As-tu à te plaindre de quelque chose ?»« Non, non !» Mathilde frappait des pieds avec rage, cognait son front à petits coups de poing. « Je ne suis pas heureuse » cria-t-elle. « Pas heureuse, toi, avec nous, un mari que tu mènes par le bout du nez ?»« Ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas me comprendre, parbleu. Je reconnais vos bontés, oui. » Mais il y a en moi un démon, un mauvais ange, qui m'appelle dans le péché et dans la misère. Je résiste à sa voix terrible et ça me fait souffrir. Oui, ça m'embête d'être enchaînée, même avec des chaînes d'or. Oh, ma fille! Tant pis, c'est plus fort que moi. Voudrais-tu nous quitter? Moi, vous quitter? Oui, à moins que tu ne prétendes rester dans notre famille pour la salir de tes fautes. Mathilde, étonnée de la hardiesse de Mère Adèle, comprit aussitôt l'imprudence de ses folies et, changeant d'attitude, elle larmoya. « Je me suis mal expliquée. Je l'espère. Je me confessais à vous, mère indulgente et bonne, afin que vous me secouriez dans l'orage où parfois la voix du mauvais ange éclate au fond de moi comme un coup de tonnerre. Je sais si peu de choses, ma fille. Vous savez tout, puisque vous avez du cœur. Oh, laissez-moi vous embrasser. Oui, va. Tenez, je reviens de Montmartre voir ma chambre d'ouvrière. Un caprice encore. Je n'y puis rien. Tu n'as pas rencontré quelqu'un de malhonnête? Non, d'ailleurs, je ne l'aurais pas écouté. Mais la tentation du mal, c'est déjà trop. Je crois. Aussi, j'appelle souvent, sur le chemin de mon passé, Pierre. Ton ami, il ne t'a pas entraîné, au moins. Il est si brave. Ah, mon Dieu, je ne sais pourquoi je vous confesse mes tourments. Vous allez m'en vouloir. Où est Sébastien? Tu le sais, il travaille, à son magasin. Ayant ôté ses gants, son chapeau, Mathilde marchait de long en large, avec égarement. Mère Adèle, très émue, la saisit entre ses mains, que la vertu rendait vigoureuse. « C'est triste, lui dit-elle, il ne faut même pas que Sébastien soupçonne en quel enfer s'agite ta conscience. Sais-tu d'où vient le malheur? C'est que tu es trop belle, trop occupée de toi-même, trop enivrée des hommages qu'inspire ta jeunesse. Et puis, tu négliges trop le bon Dieu. Dans mes prières, c'est pour mon fils, par conséquent pour toi, que je le prie. Je te croyais si heureuse. » De par ma volonté, je le serai certes au milieu de vous tous, mais on n'est pas maître de son corps. Si, ma fille, n'envie pas les joies apparentes du monde qu'il expie par du remords, par l'impuissance d'aimer. Le cœur n'est pas assez riche pour se gaspiller hors de sa maison. Songe que la beauté de ton corps fondra aussi vite que la neige au printemps et que c'est dans ton âme, si tu la gardes pure, que tu trouveras jusqu'à ta dernière heure la force de te dévouer à ceux qui te chérissent et le plaisir de goûter aux félicités permises de la terre. Je veux vous aimer, seulement voyez comme je tremble. » Mathilde laissa couler sur ses joues des larmes que rendait sincère la crainte de perdre sa fortune. Elle se mit à genoux lentement, avec une jouissance de se prosterner bien bas. Mère Adèle aussitôt la releva, non sans rudesse. Ne t'humilie pas devant moi, ma fille. Si je n'ai jamais connu la voix du péché, je ne veux pas, avec les créatures trop faibles qu'il tourmente, l'entendre une seule fois. Viens, allons à l'église.
Oui.
Mathilde sécha ses paupières, ses joues, en souriant d'espérance. Elle se ganta bien vite et pingla son chapeau sur ses cheveux brillants de leur lumière. Mère Adèle, ayant mis son collet de velours, l'attendait déjà. Elles sortirent précipitamment, serrées l'une contre l'autre. Notre-Dame de Lorette était tout proche, isolée et sombre dans les ondes de la foule. Quelques dévotes disaient leur chapelet ça et là. Mathilde, dans la chapelle de la Vierge, s'agenouilla sur le bord de la chaise qu'elle avait à demi renversée. Elle baissa le front, l'enferma soigneusement entre ses mains, que l'émotion glaçait. Les prières, qu'elle récitait autrefois par force, lui remontèrent spontanément aux lèvres, du fond ranimé de ses croyances, dans le temple, imprégné des sentiments de la douleur et de la foi, comme un jardin du parfum des fleurs. Les mots de charité, de pardon et d'amour, toujours nouveaux, la bénière de leur bonté éternelle et simple. Dans l'odeur enivrante des bouquets, à la clarté vacillante des cierges, elle souriait au rêve d'une vie meilleure, plus fortunée par la grâce de Dieu. C'était pour elle que la mère de Sébastien, sur la chaise voisine, priait avec ferveur, et le murmure monotone de ses lèvres lui touchait le cœur avec délices, comme une ondée d'avril sur de tendres feuillages. Dans le recueillement de la chapelle, plus profond que celui de sa conscience, Mathilde priait toujours, s'adorait elle-même, à son insu, le front levé vers la Vierge, toute blanche de la lueur des cierges, lorsque Mère Adèle lui frappa sur l'épaule. « Assez pour aujourd'hui, ma fille, viens !» Mathilde la suivit docilement, sans mot dire. Mère Adèle semblait, dans la rue, la reconduire avec orgueil. Mathilde se croyait apaisée maintenant, purifiée de ses maux. Elle sentait la vie plus radieuse, comme l'oiseau qui a passé dans du soleil. Elle ne craignait plus le péché, et hardiment, sans le savoir, elle s'avançait à travers la foule, dans la ville coquettement parée et sensuelle. Mère Adèle, si imprudente en ses illusions, voulut, au lieu de rentrer tranquillement rue Chauchat, mener Mathilde à son mari au magasin. Celui-ci ne se doutait pas non plus du péril qu'elle courait à se confondre sur le boulevard parmi des femmes dont la bonté bienfaisante excuse parfois les caprices. La foule, en ses remous, la soulevait, heureuse, fière d'une noblesse de son corps à laquelle sans cesse les passants rendaient hommage d'un regard. Chaque fois qu'elle croisait un homme agréable, malgré elle, à ses yeux, elle rougissait avec innocence et son sein palpitait d'une angoisse rapide. « Le boulevard est joli, ma fille !» s'écria Mère Adèle qui marchait à son bras. « Je voudrais bien y habiter, » répondit Mathilde. « Voyez, que de bijoux dans les vitrines !»« Ne nous arrêtons pas, ces tentations sont mauvaises. »« C'est vrai, quand on n'est pas assez riche pour acheter ses trésors, jamais je n'en ai eu seulement envie. »« Tais, nous voici arrivés !» Dès l'apparition de Mathilde, dont la splendeur étonnait toujours, la conversation s'interrompit dans le magasin. Il y avait, debout, entre les deux associés, M. Jaume, dont le visage rougeâtre se gonfla de contentement. Une fois encore, il avait promis ses libéralités prochaines, après le paiement de quelques échéances. Sur l'invitation de Sébastien, on passa dans le cabinet directorial. Tous parlaient ensemble, avec effusion. Mais pour entendre Mathilde racontant sa visite à l'église, chacun se tut. Sébastien la félicita de tout son cœur de revenir à Dieu selon les exemples de sa mère. M. Jaume, qui s'était assis auprès d'elle, ricana d'impatience. « Allons donc, votre église ? Est-ce un lieu de perdition, M. Jaume ? Je ne sais pas, mon garçon, tout ça c'est du penchant au cléricalisme. » Moi, voilà 20 ans que je n'ai pas mis le pied dans une église. Je n'en ai pas besoin. « Pardon, monsieur, » protesta Mère Adèle, « il faut pourtant croire à quelque chose. »« Certainement, madame, je crois à moi, à ma fortune, à mon honneur. Moi, je me vois, je me sens, j'existe. » Tandis que monsieur Jaume se tapait sur le ventre, Léon, pour flatter la jeune femme et gagner Mère Adèle, insinua « Si j'avais le temps, j'irais à l'église.
Ah ah, le gredin ! S'exclama M. Jaume, qui, se soulevant un peu, lui tapait sur le dos gaillardement, comme un complice trop roué. Un employé demanda au magasin un de ses patrons pour servir une cliente. Sébastien Dumbon se précipita. Comme Mère Adèle interrogeait Léon sur les résultats réels du commerce de vin, Mathilde se trouva isolée dans son fauteuil auprès de M. Jaume, qui, sans retard, caressa d'un doigt une de ses mains gantées. Elle eut un mouvement de répugnance. Néanmoins, afin de n'être point soupçonnée d'une faute par sa mère, elle prit le parti de rire. Et M. Jaume, se croyant encouragé, lui souffla dans l'oreille.
« Pierre ne vous a rien dit ?»«
Non, il travaille. »«
Pour moi, je vous attends à Saint-Mandé. »«
Chut ! S'il ne vous amène pas, je le flanque à la porte. En ce moment, il ne trouverait de travail nulle part. » « Je ne donne rien pour rien. »«
Méchant, taisez-vous !»
Mathilde pâlissait de colère sans qu'il s'effrayât une seconde. Il gardait sur elle, sur son bras potelé, une main avide, il se penchait encore vers son oreille, lorsque Léon, avec une ironie hautaine, les sépara.
« Que racontez-vous ? » ?»«
Monsieur Jaume est amusant, » répondit Mathilde. « Il veut à tout prix que nous allions passer un dimanche chez lui à Saint-Mandé. » Interloqué par ce mensonge, qui pourtant lui parut une adhésion à ses projets d'amour, M. Jaume se frotta les joues, éclata de rire. Mère Adèle, avec une inquiétude involontaire, regardait fixement sa bru qui s'écria
« Oh, mère, nous n'irons pas à Saint-Mandé sans vous !»«
Ouais, » riposta M. Jaume, « Madame Lampéric Sébastien peut sans crainte venir seule chez moi, je pense. » On resta un moment de gêne à s'épiller. Mère Adèle, déjà lasse de penser et de marcher, soupira.
« Allons-nous-en, ma fille !»
Léon et M. Jaume, aussi empressés l'un que l'autre, accompagnèrent les deux femmes au magasin, où Sébastien se débarrassait à peine de sa cliente. Celui-ci, sur la porte, embrassa Mathilde à deux reprises. Et M. Jaume, en arrière, dédaigneux de ce Léon Baudouin, qui demandait toujours de l'argent, grommela «
Christy, que ce bout d'homme a de la chance !»